Avant de débuter, dire un gros merci aux sœurs et Michel qui sont venus décorer le temple. Alors, merci de nous mettre dans cette ambiance-là, de façon à ce qu'on puisse encore mieux se rappeler, pas seulement les choses du monde par rapport à Noël, mais surtout celles d'une promesse que Dieu a tenue, celle de nous envoyer un Sauveur bien-aimé. Maintenant, on va se placer dans le texte de ce matin, qui est dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 4. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que le nôtre, que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Prions Dieu. Chaque matin, Seigneur, nous voulons chanter ta force, on veut célébrer ta bonté, car tu es pour nous une haute retraite, un refuge au jour de notre détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Combien grandes sont tes promesses, Seigneur, combien grands sont tes desseins. Disons à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent, toute la nature t'adore et chante en ton honneur, elle chante ton nom. Et Père, nous n'oublierons jamais les bonnes choses que tu as faites pour nous et que tu continues à faire, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, c'est-à-dire et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ensemble, frères et sœurs, louons le glorieux nom de notre Seigneur à tout jamais. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Eh bien, je continue cette semaine dans cette deuxième partie qui nous parle des promesses de Dieu. Et tout cela pour arriver le 22 décembre à la plus grande des promesses, celle d'un fils, d'un sauveur béni. Mais ce matin, dans cette deuxième partie, je veux qu'on réalise combien nous sommes bénis. Et ces bénédictions-là, toutes ces promesses-là que Dieu a faites, il s'agit juste d'aller les chercher. En bon français, c'est de les réclamer. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Parce que beaucoup de chrétiens sont riches spirituellement. Il y en a. Mais ils agissent comme s'ils étaient des pauvres. Quand on regarde dans ce que la parole de Dieu nous dit, comment richement béni à cause de toutes ces promesses-là, puis qu'on agit comme si on était des pauvres spirituellement, ça n'y rien comprendre. Souvent, ces chrétiens-là choisissent de vivre comme des personnes spirituellement pauvres. C'est un choix qu'ils font. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de croyants ne comprennent absolument pas leur vraie richesse. Ils ne les comprennent pas. Et ce matin, je vais partager avec vous plus de 20 richesses. Tout le monde a son 20 promesses, c'est-à-dire. Tout le monde a son petit feuillet, si vous ne l'avez pas. Qui pour le distribuer, vous faites juste lever la main. On va aller vous en porter un parce que les 20 promesses sont là, puis les versets à aller voir là, sont là, puis gardez ça parce que vous avez peut-être besoin de le lire. Donc, 20 promesses qui sont riches, puis qu'on a besoin de se souvenir en tout temps. Il ne faut pas les oublier parce que ça parle de notre foi. Si on dit qu'on croit en Dieu, bien, il faut croire dans ses promesses. Dieu n'est pas menteur, on l'a vu la semaine passée. Et vous avez, il y a un paquet d'écritures, le texte que je viens de lire, 2 Pierre 1, 1 à 4, et le verset qui vient vraiment, c'est « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » En tant que croyant, on est riche au-delà de toute mesure. On est riche. Par contre, c'est triste de voir des chrétiens qui vivent comme des gens pauvres, et cela malgré le fait que la parole de Dieu nous dit qu'on est richement béni par d'innombrables promesses. Il y a ce qu'on appelle une dichotomie, c'est-à-dire il y a un contraire ici. Tu es un enfant de Dieu, tu es le fils du roi, mais tu agis comme un itinérant. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu lis, si tu la lis, la parole, est-ce que tu vois les promesses que Dieu te donne? Oh, tu les voudrais peut-être tout de suite. Mais c'est Dieu qui décide. Et comme je vous disais tantôt, le jour même où on a été sauvé, le jour même, la minute même où tu as fait profession de foi, tu as hérité de toutes les promesses de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous sommes devenus prospères. Maintenant, quand je dis le mot prospérité, je ne parle pas de l'évangile de prospérité comme c'est enseigné ailleurs où tu vas devenir riche, tu vas être en santé. Non. Tu es prospère spirituellement. Tu es prospère en Dieu, la minute que tu crois. Pourtant, pour en bénéficier, il faut passer à la caisse. Il faut les encaisser. Hein? C'est-tu dans le jeu de Monopoly, c'est écrit « go, pass go » puis « collecte 200 piastres », c'est ça? Ben c'est ça, c'est faut passer à Dieu puis dans sa parole, puis collecter. Quand c'est écrit dans la parole, c'est pas un mensonge. Les promesses de Dieu sont comme un coffre au trésor. Quand on réalise combien il veut nous bénir avec toutes ses promesses, on ne peut pas s'empêcher d'être étonné. Puis plus je lis la parole de Dieu, puis plus je m'attarde, là, je ne fais pas juste la lire pour la lire, mais plus je la lis, puis j'essaye de comprendre, je suis étonné de voir toutes ces promesses-là qui sont là, puis bien souvent, soit que je ne le savais pas, je ne m'en rappelais plus, là, ou ben donc je ne réalise pas comment riche que je suis. On va commencer par le premier. Premièrement, le Seigneur nous a mis en relation avec lui. Et le texte que vous avez devant vous, c'est Romains 5, les versets 6 à 11. Paul nous dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, pécheurs, au temps marqué est mort pour des impies. » Ça veut dire Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. » Mais Dieu prouve, et ça c'est un beau verset, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Parce que si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, c'est ça que le Seigneur a fait, il nous a mis en relation avec Dieu par la mort de Jésus-Christ. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela nous, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu réconciliation. On est maintenant des amis de Dieu. On n'est plus des ennemis de Dieu. Le mur qui nous séparait de lui, il est tombé à cause de Jésus. Et ça arrive quand je reconnais que Christ est mort pour moi, que j'ai besoin d'un sauveur et que Jésus est mort pour moi et que je crois en lui. Attendez une petite seconde, là, j'étais un petit peu comme... En tant que son enfant, on a aussi reçu un pardon quotidien. À tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu, on a maintenant le privilège de venir à lui à chaque jour, de confesser nos péchés, pas à un autre homme dans une petite boîte, là, à ton papa qui est au ciel. Eh bien, qu'est-ce qu'on est sûr de recevoir, si on est sincère? Son pardon. Et ça nous permet de grandir spirituellement et d'être en communion avec lui. 1 Jean 1,9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il est fidèle, il est juste. Troisièmement, la présence de Dieu est continuellement avec toi. Dieu est toujours avec toi. Et dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit au chapitre 13, verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Autrement dit, ne vous livrez pas au plaisir du monde. Contentez-vous de ce que vous avez. Hein? Ça, c'est dur. Hein? Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Dieu va toujours être là, à tes côtés. Tu as un compagnon de voyage. Il n'y a rien de plus plate que de partir en voyage tout seul. C'est plate. À moins que tu aies un solitaire, là. Mais ça, en tout cas, moi, je ne serais pas capable. Hein? Je ne serais pas capable. Ça fait 46 ans aujourd'hui que je suis avec mon épouse. 46e anniversaire de mariage. Puis le Seigneur va... Merci. Mais le Seigneur a permis de me donner une compagne fidèle que j'aime, puis que je continue à aimer, puis que j'espère que ça va durer plus que 46 ans. Le Seigneur, par contre, c'est encore mieux que ça. C'est ton ami intime. Et il a promis de ne jamais te quitter, ni de t'abandonner, peu importe ta vie. On est béni. J'en ai juste fait trois, là. Le fait que je suis son enfant, que j'ai été réconcilié avec lui, que j'ai un pardon quotidien, que lui, Dieu est avec moi continuellement, ça me réconforte. Ensuite, on a reçu l'Esprit Saint. Jean 14, verset 16, avant de partir, le Seigneur dit à son papa, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Il dit ça, c'est-à-dire à ses disciples, aux apôtres. « Je vais vous envoyer un consolateur, celui qui va consoler votre âme parce que je suis parti, afin qu'il demeure 3 mois avec vous. » Non. « Éternellement avec vous. » Avant que Jésus monte au ciel, il a promis d'envoyer un aide. Et maintenant, on a la présence de l'Esprit-Saint pour nous guider, pour nous donner les moyens d'accomplir tout ce que le Seigneur nous demande. Je disais un matin en contact, quand il n'y a pas de raison que personne ne soit pas au service de Dieu. Si tu te demandes pourquoi tu ne sers pas le Seigneur, demande-lui d'être avec toi puis de te montrer, justement, le chemin à suivre. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est celui qui va te motiver, qui va te donner la force d'accomplir ce que le Seigneur te demande. Ensuite, on a l'assurance de la force de Dieu. La semaine passée, on a parlé de la toute-puissance. Dieu est tout-puissant. Dans Ésaïe 41, au verset 10, on peut dire « Ne crains rien, car je suis avec toi. » C'est Dieu qui parle à Ésaïe. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. » « Je te soutiens de ma droite triomphante. » Wow! Dieu est avec moi. Dieu me donne sa force. Quand je suis faible, il est fort. Donc, je suis fort. Quand tu es faible et impuissant, tu peux compter sur le souverain de l'univers. Celui qui a créé, là, quand tu regardes le soleil, la lune, les étoiles, les astres, tu dis, « Hey, ça prend un Dieu tout-puissant. » Et c'est le Dieu de la Bible. Et c'est lui qui lui promet de te fortifier. Ensuite de cela, Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Souvent, on se sent peut-être délaissé. On a des besoins, on pense que on n'aura pas d'aide. Matthieu 6, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Comment de gens que je rencontre sont inquiètes? Et ne dites point, que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et je reviens au passage qu'on connaît tous, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données en plus. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Il connaît. Il est omniscient. Et il s'est engagé à pourvoir à tous tes besoins. Au lieu de te soucier de tes problèmes, perte de temps inutile, tu peux simplement compter sur lui. Ensuite, le Seigneur répond à nos prières. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il ne faut toujours pas oublier le selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quand tu pries selon la volonté de Dieu, pas selon la mienne, selon la volonté de Dieu, il va te répondre. Il va prendre le temps de t'écouter, il va prendre le temps de te répondre. Et la manière, la prière, c'est-à-dire, c'est le moyen d'encaisser ses promesses. Négligeons pas la prière. C'est dommage que le mardi soir, il n'y ait pas plus que 2, 3, 4 personnes maximum pour prier. Une soirée par semaine en Église, parce que ça fait partie de ce que le Seigneur nous a laissé comme héritage. Dans Actes, on voit que l'Église se réunissait. Oui, il y a la prière personnelle. Oui, il y a la prière « Enforme-toi dans ta chambre ». Oui, il y a des prières en famille, mais il y a aussi la prière en Église. Tout ce qui reste à faire, frères et sœurs, c'est de prendre tes besoins et de les réclamer. De réclamer ceux et celles qui s'appliquent à ta situation. Ensuite de cela, Dieu est toujours prêt à te donner ce qu'il y a de meilleur. Le psaume 84, verset 11, dit ceci. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Il ne refuse aucun bien. Si tu marches, si tu es intègre avec Dieu, si tu n'as pas deux sortes de langage avec Dieu, un à l'église, puis un chez vous, puis un avec des amis. Si tu vis une vie pieuse, le Seigneur ne te refusera jamais une bonne chose. Quand tu en auras besoin, et si c'est bon pour toi, il va pourvoir. Ensuite de cela, une autre chose qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur porte au quotidien nos fardeaux. Ce n'est pas pour rien que Jésus est venu sur la terre. Il s'est fait homme. Pourquoi? Pour encaisser, pour subir tout ce qu'un homme peut subir, un homme, une femme peuvent subir comme douleur, comme problème, comme fardeau. Le psaume 68, verset 19, dit ceci, « Béni soit le Seigneur, chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. » Il n'y a aucune raison qu'on se réveille le matin puis qu'on soit ennuyé par des épreuves et des chagrins. Il n'y a aucune raison. Si tu déposes tes préoccupations devant Dieu, Et si tu crois en ses promesses, souvent c'est ça, hein, on ne croit pas assez. Savez-vous ce que le Seigneur va faire? Il va remplacer tous tes soucis par une joie qui va être remarquable. Les gens vont remarquer cette joie-là. Garde-moi les dents, ce gars-là ou cette femme-là. Pourtant, moi, je ne me réjouirais pas. Mais regardez donc, il a la face fendue jusqu'aux oreilles. Le Seigneur nous donne cette joie. Ensuite, le Seigneur nous réconforte dans des temps qui sont difficiles. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, Paul dit, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Hein? Les toutes. Afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, c'est-à-dire nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Si toi-même t'es consolé par le Seigneur, tu vas être capable de consoler d'autres. Puis c'est pour ça que j'encourage tout le monde à venir fidèlement à l'Église. C'est pour être au courant de ce qui se passe. Il y a des gens qui ont besoin d'être consolés. Il y a des gens qui ont besoin d'être entourés avec des bras. Si on reste chez nous et qu'on ne fait rien, ça ne marche pas. Si on est un corps démembré, ça ne marche pas. La fidélité est importante, surtout quand les chrétiens passent des temps qui sont difficiles. Ensuite de ça, le Seigneur fixe des limites à nos épreuves et tentations. Ça m'encourage. Il n'y a rien que le Seigneur va faire ou qui va permettre, je devrais dire, qui va être au-dessus de ce que tu peux endurer. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » C'est formidable, hein? Peu importe ce qui arrive, c'est pas au-dessus de tes forces. Quand tu penses que tu ne peux pas en prendre plus, hein? J'en ai assez, là. La cour est pleine, là. Quand tu sais que tu n'es plus capable d'en prendre, le Seigneur va pourvoir à la façon de t'en sortir pour que tu puisses continuer à persévérer et non à être découragé. Ensuite, on sait que le Seigneur accorde la sagesse. Il faut que j'embraye. La sagesse, dans Jacques, hein, dans Jacques 1, 5, hein, demandez-la au Seigneur. Qu'on la demande avec foi, par contre. Dans chaque décision et pour chacune des circonstances que nous affrontons, Dieu nous offre sa sagesse. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut? C'est la demander avec foi. Avec foi, sans aucun doute. Mais c'est le péché, hein, souvent, qui nous empêche la revendication de promesses. Parce que le péché exclut la vérité. Où est-ce qu'il y a le péché, il n'y a pas de vérité. Et le péché crée l'incertitude. Et souvent, le péché conduit à des choix imprudents. Le Seigneur nous donne ensuite le repos à notre âme dans Matthieu 11, 28, 30. Hein, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le Seigneur dit, venez à moi, je vais vous donner le repos. Lorsque ton cœur est accablé, pesant, lourd, Jésus t'offre à la fois un repos physique, un repos émotionnel à chacun qui vient à lui. Dieu nous donne sa paix. Hein? Dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Chaque fois que tu apportes tes angoisses à Dieu dans la prière, le Seigneur te donne sa paix, la paix qui surpasse tout. Il crée un mur impénétrable qui te sépare de tout souci. Ensuite de ça, tu pourras être fort et fructueux dans la vieillesse. Je pense qu'on est tous, excepté quelques-uns, là, dans cette catégorie-là, la vieillesse. Ouais, on est dans le troisième âge pas mal, la gang ici. Dans Psaume 92, versets 12 et 15, c'est que les justes, les croyants, on devrait dire, croisse comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les pervis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point de, en lui d'iniquité. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, es-tu sérieux, là? Je veux dire, j'ai 66 ans, puis il y en a qui sont bien plus vieux que moi. Puis, il me semble que j'ai moins de force qu'avant. Il me semble que j'ai moins de pep qu'avant. Mais il y a une chose qu'il faut considérer. Dieu ne nous donne rien de trop de plus fort que nos forces. Hein? La retraite, là, une bonne partie d'ici sont à la retraite, peut-être la période la plus spirituellement productive de ta vie. Spirituellement productive de ta vie. À condition que tu restes fortement enraciné dans le Seigneur. Parce que c'est bien facile de s'en détacher. C'est facile, hein? Là, je suis à la retraite, j'ai du temps devant moi. Puis là, on se trouve toutes sortes de petites bricoles à faire, de petites choses à faire. Puis pourtant, j'en ai vu dans des églises du passé qui, au moment de leur retraite, y avaient consacré du temps pour l'Église. Et ils ont fait des choses merveilleuses, que ce soit dans l'entretien de l'Église, que ce soit des fois dans la réparation, que ce soit dans les services d'aller visiter les malades, d'aller visiter les gens, d'aller prier. C'est la période la plus spirituellement productive de ta vie. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il veut te cultiver afin que tu produises des fruits, des bons fruits, jusqu'au jour où il va t'appeler à la maison. Donc, il est temps qu'on en profite. Ensuite de ça, le Seigneur te donne les désirs de ton cœur quand tu te délectes en lui. Et regardez ce psaume-là, le psaume 37, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices. » Des fois, on va faire mes délices d'un beau plat, là. Mais là, c'est « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Autrement dit, ce que tu aimes le plus, là, ce que tu désires le plus, là, c'est le Seigneur. Si Dieu est plus important pour toi que n'importe qui ou quoi que ce soit d'autre, Dieu va t'accorder tes désirs parce que par-dessus tout, tu trouves ton plaisir à l'adorer. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Que tu trouves ton plaisir à le servir. Que tu trouves ton plaisir à vivre pour lui. Ça, c'est de faire de l'Éternel tes délices. C'est plus important que n'importe quoi. Je m'excuse de dire ça, mais c'est plus important que ta femme. C'est plus important que tes enfants. C'est plus important que tes amis. C'est plus important que tout. Fais de l'Éternel tes délices. Puis inquiète-toi pas, Dieu ne permettra pas que tu négliges ton épouse ou ton mari. Dieu ne permettra pas que tu négliges tes enfants. Inquiète-toi pas pour ça. C'est un papa. Dieu veut te traiter comme son enfant. Et un papa ne traite pas son enfant en l'encourageant à négliger les autres. Mais il veut qu'il soit le premier dans ta vie. Le Seigneur, ensuite de ça, il est une aide très présente en temps de difficulté. Il est là. Le psaume 46, versets 1 à 3, qui dit au chef des chants des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est là. Rappelez-vous, là, les disciples dans un bateau, là, dans une chaloupe, là, puis que le Seigneur dort dans le fond, là, puis la tempête, elle se lève, là, puis les autres sont tous énervés. Ah, vous aurez été énervé, moi aussi. Je ne sais pas nager. Mais le Seigneur s'est levé, il a calmé la tempête. Le Seigneur, c'est notre refuge en temps d'incertitude en temps de danger. Il est pour nous un refuge. Depuis que sa présence habite en moi par l'Esprit Saint, Dieu est toujours disponible pour m'aider dans tous les sens. Ensuite, Dieu nous donne sa direction pour notre vie. Et le psaume 32, verset 8 dit « Je t'instruirai ». Ça, c'est Dieu qui te parle. Là. Quand tu lis ça, là, Dieu est en train de te dire, là, si tu crois en moi, là, je vais t'instruire. Je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Qu'est-ce qui te reste à faire? Cash in. Collecte. Seigneur, j'ai besoin de ta direction. J'ai besoin d'instruction. Ça me revient. Ça me revient dans le sens, on n'est pas impoli, là, mais on dit juste, ta parole est là. Je suis un enfant de Dieu fidèle. S'il y a des choses qui ne marchent pas, montre-moi-les. Mais je veux être instruit, je veux que tu me montres la voie, je veux te suivre. C'est ça. C'est la manière d'aller devant le Seigneur et de lui dire, Seigneur, je réclame cette promesse-là. Dieu connaît tous les pièges et les dangers qui t'attendent. Ça, il sait, lui. Nous autres, on ne le sait pas, mais lui, il sait. Puis, il a promis de t'apprendre à connaître dans quelle direction aller pour que tu puisses rester dans le droit chemin. C'est ça qu'il veut, Seigneur. Il veut te montrer ça. L'autre point, c'est un point délicat. Il guérit en temps de maladie. Psaume 103, versets 1 à 3. Puis quand je dis qu'il faut lire un passage, puis il faut regarder ce qui est écrit avant, puis ce qui est écrit après, c'en est un exemple. Psaume 103, versets 1 à 3. De David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Qu'est-ce qui est avant de guérir toutes tes maladies? Il pardonne tes iniquités. Parce que là, c'est dangereux quand tu interprètes ça au sens que certains interprètent, bien, toutes les maladies, il va y guérir. C'est t'es malade comme pécheur. Ça, c'est une promesse. Il va guérir toutes tes maladies. Oui, il peut guérir des maladies. Ça, on le croit. S'il veut, si c'est sa volonté, mais ce n'est pas vrai qu'il va guérir tous ceux qui sont malades. Sans ça, les églises qui prônent ça seraient pleines. Dieu ne change jamais. On a vu la semaine passée que Dieu est immuable. Tu peux donc venir à lui pour être guéri spirituellement, comme le faisaient les gens de l'époque biblique. Et oui, tu peux venir à lui pour être guéri physiquement. Mais n'oublie pas de dire, si Seigneur, tu le veux. Si tu ne le veux pas, le meilleur m'attend. C'est triste, mais le meilleur m'attend. Puis oui, je suis obligé de souffrir un petit peu. Oui, je suis obligé d'endurer un petit peu. Mais c'est absolument rien à comparer avec tout le bonheur et la joie qui m'attendent au ciel. Notre Père céleste l'a fait pour nous. Il est venu, il s'est incarné en Jésus, son Fils. Il a été meurtri, il a été blessé. Il connaît ta misère, il connaît ta souffrance. Et encore aujourd'hui, si c'est sa volonté, il peut te guérir spirituellement et physiquement, mais selon sa volonté. Et spirituellement, laissez-moi vous dire que c'est sa volonté, c'est que oui, si tu es sincère, il veut que tu guérisses. Physiquement, ça dépend du plan qu'il y a pour toi. Ensuite de ça, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien. Hein? Romains 8, 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Notre Seigneur. Son amour à Dieu était inconditionnel. Personne ne nous séparera de lui. Personne ne va nous prendre cet amour. Quand tu as des doutes, là, lis le passage. Souligne-le dans ta Bible. Imprime-le dans ton front. Jésus donne le don de la sécurité éternelle. Et ça, je vous ai dit la semaine passée, si on n'avait pas cette promesse-là, notre foi est vaine. Quand Jean, au chapitre 10, dit ceci, « Mes brebis entendent ma voix et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périssent jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Christ a promis la vie éternelle à tous ceux qui croiraient en lui. Donc, quand tu vas mourir, tu vas être éternellement avec lui, si tu es son enfant, ou éternellement avec le diable, si tu n'es pas son enfant. Ensuite, le Seigneur nous prépare une maison dans le ciel. Hein, on voit ça dans Jean 14, versets 1 à 3. Avant la mort et la résurrection de Jésus, il a dit à ses disciples qu'il partait leur préparer une place et qu'il reviendrait un jour pour les prendre avec lui. C'est notre espoir ultime, d'être avec lui éternellement. Bon, y a-t-il quelqu'un qui est tombé, là? Non. D'être avec lui éternellement, pour toujours. Comment peut-on dire que nous sommes bénis après avoir entendu toutes ces promesses-là? Et lorsque Jésus nous dit d'avoir faim et d'avoir soif de justice, et ça veut dire que, dans Jean, comme dans Jean 6, 36, que Dieu lui-même, que Jésus lui-même dit, il est le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si tu veux une satisfaction complète dans le Seigneur, crois en lui. Jésus est notre meilleure bénédiction, notre meilleure promesse des dons de Dieu. C'est le seul qui puisse nous purifier, c'est le seul qui puisse nous donner un cœur pur afin que nous puissions voir Dieu comme on voit dans Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Par le biais de son sacrifice, on devient des co-héritiers du royaume des cieux. Et ce qui est merveilleux dans toutes ces promesses-là, c'est qu'on peut les recevoir. Elles sont accessibles. Je vais demander au groupe de louanges de bien vouloir s'avancer parce que j'ai demandé à Marc de si on pouvait chanter un certain chant. Mais avant... juste en terminant, oups, là, je ne vais pas m'enfarger, excuse-moi. Je veux juste dire ceci. Lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, dans ton cœur, tu as hérité de toutes les promesses de Dieu pour ta vie. Comprends ça. Tu n'as rien qu'à développer ou à revendiquer, je devrais dire, ces promesses-là que tu as héritées afin de devenir prospère spirituellement dans le Seigneur. Et si tu vis sans prétendre ce que Dieu a pour toi, si tu penses ça, c'est comme être un millionnaire qui a un livret de banque puis qui ne s'en sert jamais. On va chanter un cantique que dernièrement j'aime bien puis que j'encourage mes enfants aussi à toutes les semaines de dire « Hey, cette semaine, as-tu compté les bienfaits de Dieu? » On chante ça?